Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Dominique Giuliani.
Bonjour.
Bienvenue et bonjour à toutes et à tous.
Et c'est Mediapolis en direct comme chaque samedi. L'émission est réalisée comme il se doit par Jean-Luc Arblade et préparée comme toujours par Capucine Patouillet, notre invité. Jean-Dominique Giuliani. Jean-Dominique Giuliani, c'est presque Monsieur Europe en France. Il est corse, il est marseillais, puisqu'il est né à Marseille. Il est donc président de la fondation Robert Schuman, qui est, on va dire, un des think tanks, comme on dit aujourd'hui, les plus importants en France sur l'Europe, et depuis des années. Mais avant... Il a fait Sciences Po, bon, pas Sciences Po Paris, malheureusement pour moi, mais Sciences Po et ensuite, il a bien connu Alain Lancelot, le longtemps excellent directeur de Sciences Po, qui est malheureusement décédé cette semaine. Vous avez travaillé avec lui, je crois.
Bien sûr, il nous a aidé à monter la Fondation Robert Schuman, et surtout, j'ai dirigé le cabinet du président du Sénat, René Monory, dont il était un proche, proche conseiller, proche ami, comme il l'était d'ailleurs de plusieurs hautes personnalités. On vient de perdre Valéry Giscard d'Estaing. Je sais qu'il consultait Alain Lancelot fréquemment, et Alain Lancelot, c'est l'homme qui a ouvert Sciences Po à l'international et à de nouvelles activités, formation des journalistes, etc. C'était un homme lumineux, à l'oral absolument séduisant, on se souvient de ses commentaires d'élection présidentielle, et un homme à l'exigence académique de très haut niveau. Comment vous dire, de temps en temps, je sens qu'il nous manque.
Merci, je ne sais pas à qui vous visez, espérons que ce ne soit pas moi. Bon, alors, pour commencer cette émission, après l'évocation de ce triste événement, rigolons un peu avec Canteloup.
Au sommet de l'État, on se prépare à... Ah, Macron a...
Oh,
ben non, c'est pas lui.
Française ! Français ! Moi, Gérard Larcher, président... Je vais pas finir mon petit déj. Président du Sénat, premier dans l'ordre de succession en cas d'impossibilité pour le chef de l'État de gouverner. Mmh. Oui, j'accepte solennellement cette mission qui consiste à prendre en main les rênes de la France.
Mais enfin,
ma première mesure sera la réouverture des restaurants.
Non, mais... Monsieur Larcher, Emmanuel Macron va très bien. Vous n'allez pas devenir président par intérim.
Ah bon ?
Ben non.
Bon.
Non, non.
Bon. En même temps, ça aurait été le clou du spectacle le plus fascinant de cette année 2020, vous imaginez ?
Oui, on imagine, oui.
C'est imaginé, là, c'est l'effet papillon. Hein. Un Chinois mange à 10 000 bornes de là une soupe au pangolin en janvier, et bing ! Ça fait que je deviens président en décembre. Faut que j'envoie de la soupe à la chauve-souris et à tout le Qingdao si je veux devenir président et rouvrir les restaurants.
Oui, c'est ça.
C'est mon projet.
Merci Gérard Larcher.
Eh bien, c'était hier matin sur Europe 1, à la suite donc de l'annonce du fait que le président de la République était contaminé par le coronavirus. Il y a deux ans, quand j'étais dans ce studio, sur les écrans de télévision en face de moi, il y avait gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Et là, il y a troisième vague. Vaccin, comment convaincre, encore bientôt la troisième vague, etc. etc. Donc, on voit que c'est un événement qui a totalement envahi, non seulement la planète, mais évidemment les actualités, et qui, dans le lot des contaminations, je vais dire, presque étonnamment, touche pas mal de chefs d'État et de chefs de gouvernement. Parce que dans les pays où ça va, disons, pas très bien, il y a, alors c'est en mortalité évidemment, c'est une personne sur 1000. C'est quand même pas énorme, une personne sur 1000. Alors on dirait les chefs d'État et de gouvernement, jusqu'à ce jour, ils sont pas morts. Mais et les personnes atteintes, c'est évidemment beaucoup plus que ça. C'est, j'ai plus le chiffre en tête, mais mettons que ce soit 1%. Et donc, on est un peu surpris que des gens protégés, des gens en principe attentifs, Boris Johnson, Donald Trump, le président de la République française, hier matin le Premier ministre slovaque, Catherine Ney.
Oui, vous ne pouvez pas tous les mettre dans le même panier parce que le président Trump, Boris Johnson, même Bolsonaro avaient nié la dangerosité du virus. Ils refusaient de mettre les mesures barrières. Ils refusaient de les appliquer. Ils bravaient la tempête, en quelque sorte. Parce que le président Macron, lui, d'abord, exige des mesures, les impose, les respecte. Et puis, voilà, il dit une négligence, pas de chance. Et puis, voilà, lui aussi est atteint par le virus. C'est pas du tout dans les mêmes conditions.
Vous avez raison d'objecter, Catherine. Jean-Dominique Giuliani, et du coup, il y a pas mal de dirigeants européens, d'ailleurs, aujourd'hui, qui se sont contaminés. J'ai donc vu hier le Premier ministre slovaque, sauf erreur de ma part.
J'en ai compté 7 à l'isolement.
Pardon ?
J'en ai compté 7 à l'isolement.
D'accord.
Je
ne
sais pas s'ils sont contaminés ou pas, mais les luxembourgeois, les portugais,
l'espagnol,
le slovaque, et le nôtre, le Premier ministre.
Le président du Conseil européen, Charles Michel.
Le président du Conseil européen, Charles Michel. Et donc, comment vous dire ? La réflexion, ça m'incite, c'est que l'Europe, finalement, est plus fragile face au virus que les autres continents, parce que, vraisemblablement, nous accordons beaucoup d'importance à la santé. Nos populations sont plus âgées. Les statistiques viennent de paraître pour l'Italie. La moyenne d'âge d'un Italien, c'est 45 ans, ce qui est énorme. Et donc, dès qu'apparaît une incertitude médicale, c'est la panique, justifiée ou pas. Et les gouvernements sont bien à mal de réagir de manière proportionnée.
Donc mais je ne suis pas aussi convaincu que vous. D'abord, les États-Unis sont aujourd'hui le 10e pays le plus touché.
Mais ils supportent 300 000 morts. En Europe, on ne supporte pas autant, n'est-ce pas ? Donc, comme on ne sait pas quoi faire, le monde médical se répand partout dans les médias. Ça, c'est un sujet médiapolis. Divisé, qui ne sait pas quoi faire, on entend les conseils différents. Et ça contribue à accroître la difficulté de gouverner, à mon avis, pour et aussi l'angoisse des citoyens, parce qu'on ne sait pas où est la réalité. Tout le monde peut être contaminé. C'est plus ou moins grave.
Et au bout d'un an, finalement, le domaine d'ignorance le plus grand reste celui de la transmission.
Oui.
En fait, on ne sait pas pourquoi un tel transmet et pas un tel autre, un tel sur-sur-transmet et pas un tel autre, au bout d'un an. Donc, à la fois, on a été extraordinaire de trouver maintenant deux vaccins homologués en un temps totalement record, et en même temps, ce virus est tellement fourbe qu'une quantité essentielle nous échappe. Bien, on y reviendra tout à l'heure sur la difficulté de négocier en Europe avec vous en période de pandémie. En attendant, il y a un ou deux autres sujets d'actualité qui nous attendent après une petite pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avant d'en venir, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, à d'autres sujets de l'actualité, le président de la République a fait hier, depuis qu'on a appris qu'il a été contaminé, d'abord il a tenu à distance, mais en direct, une réunion sur l'aide publique au développement pendant laquelle il s'est exprimé assez longuement. Ensuite, on a appris qu'il était transféré dans la résidence de la Lanterne, dans le parc de Versailles. Et là, il nous a fait hier une relativement courte vidéo pour donner de ses nouvelles. Et il a annoncé qu'il ferait ça une fois par jour. Il a raison ? Il a tort ?
Moi, je me méfie toujours, vous savez, de cette transparence qui, en fait, produit des effets contraires à ce qu'on voudrait. On voit bien que l'intention est pure, si je puis dire. Je crois qu'on va tous laisser le président se reposer. On n'a pas besoin de lui prendre la température tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire.
Catherine Ney ?
Oui, mais surtout quand il dit hier « je vais bien », on voit bien qu'il ne va pas bien. Il était très, très pâle, avait très tiré, le regard. Et puis, si ça doit durer longtemps, je veux dire, voir un président tous les jours qui ne va pas, c'est pas pour lui. Bon, moi, je trouve qu'il faut qu'il s'éloigne, qu'il se soigne et puis qu'il réapparaisse au moment où ça ira mieux. Parce qu'autrement, ça va désespérer les Français aussi. Puis surtout, on dit transparence. Mais si c'était une vraie transparence, il dirait « mais voilà avec quel médicament je me soigne ». Trump, il a fait tout le cocktail des médicaments qu'on lui avait donnés, de quoi ressusciter un mort. D'ailleurs, au bout de 4 jours, il était guéri. Il est apparu une fois qu'il était guéri, vous voyez. Et donc, je suis d'accord que ce n'est pas très opportun de parler tous les jours de sa santé quand on va mal. Voilà.
Il y a eu une autre expression un peu étonnante, mais ça c'est plus pour les juristes. c'est quand il a dit « je gère les affaires courantes », qui est quand même une expression extrêmement minimaliste, parce que gérer les affaires courantes, en général, c'est la solution quand un gouvernement est renversé et qu'on attend le successeur. Donc c'était un peu étonnant. Bon, on verra, là où Catherine Ney a raison, c'est que je pense que ça dépend beaucoup de combien de temps ça dure. Si ça dure 3-4 jours, c'est pas très grave. Voilà. Si ça dure 10-15 jours, c'est pas tenable de le voir tous les jours venir nous donner, comme ça, des nouvelles. Il y a un autre sujet de débat, dans le fond, assez, je crois, franco-français, pour vous qui aimez porter un regard européen sur les choses de Jean-Denis Giuliani, ce sont les débats sur ce qui s'appelait, mais d'ailleurs ce que les gens appellent toujours, la loi séparatisme. Écoutez Bruno Retailleau, jeudi 10 décembre sur Europe.
Le problème, c'est qu'il pratique l'amalgame, ce texte.
L'amalgame ? C'est l'exécutif qui pratique l'amalgame alors qu'il essaye de ne pas donner le sentiment d'un texte anti-islam, justement, et contre cette religion ?
Mais justement, parce qu'il ne veut pas nommer l'islamisme, il amalgame parce qu'il laisse à penser que parler de l'islamisme, ça pourrait mettre en difficulté les musulmans. Non, c'est deux choses très différentes. Mais surtout, comme il ne cible pas ces mesures, tout le monde va en prendre pour son grade. Toutes les religions. Eh bien, on arrose tout le monde, on sulfate tout le monde.
Dans le fond, on est dans un schéma assez classique en France dans lequel, à gauche, on crie que c'est pas bien, ça stigmatise, et à droite, et ça va trop loin, et à droite, on crie que c'est pas bien, ça va pas assez loin. C'est très franco-français ou quand même, c'est quand même un problème mondial, donc européen ?
Non, c'est très français. Ce qui est très français, on a étudié ça en Europe, on a une étude sur la laïcité en Europe, on s'aperçoit que les pratiques sont à peu près identiques, très proches en tout cas, mais que nous, Français, nous avons un problème, du fait de notre histoire, de la loi de séparation de l'Église et de l'État, d'écrire toutes les lois. Et donc la laïcité écrite, c'est une laïcité de combat. À l'origine, contre la religion catholique, maintenant contre d'autres déviations. Et donc,
La loi de 1905 était par beaucoup considéré comme une loi libérale et pas une loi de combat. Je dis juste historiquement. Chacun l'apprécie comme il veut.
Mais enfin, c'était quand même pour couper le cordon entre l'Église catholique et les affaires publiques. C'était ça. Et donc, on l'a bien vécu, etc. Mais c'est spécifiquement français. Quand vous parlez du droit de la laïcité à un Allemand ou à un Néerlandais, ils vous regardent avec des yeux ronds en disant que vous êtes malade, vous avez un problème avec les religions.
Si je vous comprends bien, les pratiques, avez-vous dit, donc les choses sont les mêmes, mais les mots diffèrent et on ne cesse de s'engueuler.
Oui, écoutez, en Allemagne, quand vous vous installez dans un nouvel appartement ou une nouvelle ville, vous devez vous déclarer au commissariat et vous devez déclarer votre religion. Parce que le financement public des cultes fait que, en fonction du nombre de citoyens qui se déclarent de telle ou telle obédience, l'Église reçoit des subsides.
Vous avez le droit d'être se déclarer sans religion. Vous n'êtes pas obligé de
vous avez le droit d'être sans religion. Ils sont minoritaires. Et imaginez ça en France. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Ouais. Et une différence plus conceptuelle que dans la pratique. Parce que dans la pratique, tout le monde conçoit bien la séparation entre les affaires de religion et les affaires publiques. Nous, Français, on a en plus un problème. C'est que nos responsables publics, vis-à-vis des religions, les prennent comme des compétiteurs. Et moi, ils disent la religion s'occupe des, la religion, elle s'occupe des affaires dont les partis ne peuvent pas s'occuper. Normalement, si vous adhérez à une religion, c'est pour avoir une explication de qu'est-ce que la vie après la mort. Bon, ce qu'un parti politique ne peut pas faire. Donc, on devrait être
les
plus...
Les juristes ne peuvent pas faire ce que sera la vie après la vie, alors.
Et non, mais je ne plaisante pas, si vous voulez. Donc, et c'est très français. Chaque fois que j'essaie d'expliquer ça ailleurs en Europe, on ouvre de grands yeux en me disant qu'on est vraiment un peu en retard.
Et très français aussi, référendum, annonce d'un référendum par un président... Querelle, ça sert à rien, c'est utile, c'est une manœuvre, c'est une chose nécessaire. Dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, mais naguère, directeur de cabinet du président du Sénat. Donc un homme qui connaît très bien le mode de fonctionnement du Sénat. Je vais lui poser une question qui est typique des questions du microcosme que je trouve exaspérant qu'on pose tout le temps, donc mea culpa, par avance. Je vais lui demander une prévision. Est-ce qu'il pense que parce que le Sénat est en majorité à droite, il refusera de voter en termes identiques la proposition de loi constitutionnelle et donc le référendum n'aura pas lieu? Ou est-ce qu'il pense, parce que le sujet est très populaire auprès des Français, que le Sénat ne bloquera pas le référendum, votera en termes identiques et que le référendum aura lieu?
Moi, ben, je vais m'acheter une boule de cristal, ce sera plus pratique.
Oh non, vous êtes capable de répondre.
Je pense que s'il y a bicamérisme, c'est pour éviter ce type de fausse bonne idée. Et jadis, le Sénat conservateur, sous l'Empereur, puis le Sénat en général, a toujours été une corde de rappel en matière de raison publique, voire de liberté publique, et donc pour tempérer les excès que l'Assemblée nationale n'arrive pas à maîtriser. Et donc, cette affaire est une fausse bonne idée, née d'une convention citoyenne, c'est-à-dire de gens incompétents tirés au sort, et qui donnent des idées comme ça, des idées dangereuses, mettre dans la Constitution la lutte contre le réchauffement climatique, c'est judiciariser l'action publique en la matière. C'est-à-dire que n'importe quelle loi va pouvoir maintenant déférer à un juge qui n'a pas les moyens de dire si elle est conforme à la politique environnementale ou autre. Donc l'affaire est, à mon avis, dangereuse et devrait trouver au Sénat l'obstacle de la raison.
Alors voilà, ça c'est très très bien, parce que vous venez d'entendre la démonstration intelligente de l'opposition qui se manifesterait, et on peut dire presque tera, au Sénat. Parce que le rejet que je trouve pas intelligent, c'est « Ah, c'est un coup politique !» Parce que ça, on nous fait ça à chaque fois, c'est un coup politique. On s'en fout d'abord, tout coup, dès qu'un politique fait quelque chose, c'est un coup politique, il fait pas un truc pour que ça lui nuise. Donc c'est pas un bon argument. En revanche, dire non seulement c'est sur le fond qu'on trouve que c'est dangereux et que donc on est en désaccord, donc j'en déduis que le référendum n'aura pas lieu. D'accord, Catherine Ney?
Oui, moi je me posais même la question de savoir si c'était... Il a proposé une des propositions de la Convention citoyenne pour se sortir de l'embarras dans lequel il s'était mis, parce qu'on lui disait « Ah, vous ne retenez pas cette proposition ». Est-ce que là, le cas Massue, vous savez que tout le monde voulait un référendum, les Gilets jaunes voulaient leur RIC, là la Convention citoyenne veut son référendum sur une phrase qu'il est impossible d'appliquer. Et donc, moi, je crois qu'il compte sur le Sénat. Et que les sénateurs dont il se méfie, je crois qu'il aura besoin d'eux. S'il n'y avait pas de référendum, je pense qu'il ne serait pas fâché.
Ah, d'accord. Vous êtes encore plus il est encore plus machiavélique que je ne pensais. C'est exprès pour que ça n'ait pas lieu. Il y a un truc étonnant dans le fonctionnement médiapolitique, c'est que, quoi qu'on pense de la Convention citoyenne, on ne va pas rentrer dans un débat là-dessus maintenant, mais... Le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, reprend un nombre assez significatif des propositions, quand on regarde en tout cas arithmétiquement. Mais on ne voit et on ne montre que ce qu'il ne reprend pas.
Ce sont les conventionnels eux-mêmes qui ne sont pas contents, oui, et qui voient le verre à moitié vide, Catherine, alors qu'il est vraiment à moitié plein.
Oui, Catherine, mais pas que les conventionnels. C'est aussi un effet médiatique c'est l'histoire du train qui n'arrive pas à l'heure. C'est-à-dire, par définition, par logique du système, on s'intéresse, ah, tiens, il reprend pas ça, ah, il reprend pas ça, ah, il reprend pas ça. Et du coup, ça déforme quand même. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire, c'est la logique du système déforme le regard. Vous êtes d'accord?
Oui, je suis totalement d'accord avec vous, parce qu'il y a des mesures extrêmement dangereuses qui sont reprises dans le projet de loi. J'en prends une, vous parlez du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il va falloir recycler tout le verre. On va dire ça à l'industrie du parfum, qui est le premier poste d'exportation du monde. On devra faire des parfums comme en Union soviétique, de toutes les mesures. On ne peut plus créer. Donc il y a plein d'inepties qui sortent de ces conventions citoyennes. On a réalisé des études, il y a eu d'autres exemples en Irlande, en Allemagne. Elles ont toutes été abandonnées à un moment ou à un autre, parce que le juge de l'action publique, c'est l'élection, c'est le citoyen. C'est tous les citoyens, c'est pas un groupe tiré au sort.
Et c'est Jean-Dominique Giuliani qui a pas la langue dans sa poche et qui va nous en faire prendre plein la figure, et par les écolos, et par les démocrates participatifs. L'émission continue, on va avec le Brexit dans 2 minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Cette fois, Jean-Demé Giuliani, c'est la énième fois, mais cette fois, c'est vraiment la dernière fois, à quelques jours du deal ou no deal. Écoutez Michel Barnier, hier.
Nous sommes à un moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, quelques heures, utiles dans cette négociation, si nous voulons que cet accord entre en vigueur le 1er janvier. Et si le Royaume-Uni souverain souhaite diverger à l'avenir, c'est son droit, mais cela ne peut pas être sans conséquences lorsqu'il s'agit d'avoir accès à nos marchés sans tarifs et sans quotas.
Michel Barnier, chef de la négociation avec le Royaume-Uni pour la Commission européenne, hier, vendredi. Jean-Dominique Giuliani, c'est quand même assez insensé que on soit toujours dans le fog, dans le brouillard sur ce point.
Oui, mais Michel Barnier, c'est le négociateur des États membres de l'Union européenne aussi.
Oui.
Et je crois qu'il faut louer sa patience, parce qu'en réalité, Boris Johnson cherche à ne pas perdre la face. N'oublions pas quand même que c'est le Royaume-Uni qui veut partir, personne ne l'a mis dehors, mais en fait, il veut rester. Jean-Louis Bourlange a une très bonne formule, ils avaient un pied dedans, un pied dehors, maintenant ils veulent l'inverse. Et donc c'est exactement ça. Donc ça a un prix, et le prix de l'accès à notre marché, il existe. Les Norvégiens, par exemple, ne sont pas dans l'Union européenne, ils payent 700 millions d'euros chaque année pour avoir accès à l'Union européenne. Et donc là, ce qu'on exige, c'est un comportement qui ne soit pas du dumping social, fiscal, un comportement de pirate, qui est chez les Britanniques assez naturel.
Mais là, ils étaient d'accord, là. Ils ont un peu plutôt négocié.
Ils font des progrès, parce que c'est leur intérêt, si vous voulez. La moitié de leur commerce dépend du continent. Et puis, pour la nourriture, par exemple, ils ne peuvent pas se nourrir sans le continent. 90% des salades, 80% des tomates viennent du continent.
Et elles viendront toujours, mais elles seront plus chères.
Oui, elles sont plus chères. Et donc si vous voulez, Boris Johnson, lui, il est dans une phase de sortie d'une sorte de trappe idéologique dans laquelle il s'est mis pour conquérir le pouvoir. En fait, il ne savait pas s'il était pour Brexit ou pas, mais il a choisi ça pour prendre le pouvoir, il l'a eu, et maintenant, il ne faut pas qu'il perde la face.
C'est-à-dire des trucs de dingue quand on y pense, parce que tout ça commence par un autre Cameron conservateur qui fait un référendum pour garder le pouvoir, parce qu'il est sûr de gagner. Et puis, paf, il se plante. Et puis après, l'autre, il sait pour prendre le pouvoir.
Alors, les Européens...
Pas terrible pour l'image des politiques.
Les Européens, eux, on peut les critiquer, mais en réalité, ils font du droit. Ils font du droit et ils ne veulent pas se faire plumer, si vous me permettez l'expression. Donc, ils n'ont pas tort. On me dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'on a raté avec le Royaume-Uni, etc. On a certainement raté quelque chose de les convaincre de rester, c'est sûr.
Ah bon ? Parce que ça m'amène à une autre question. Il y a la thèse de Rocard, Michel Rocard, qui se réjouissait du départ des Britanniques et qui disait, comme ils n'ont pas arrêté de freiner, de torpiller, de refuser, eh ben c'est beaucoup mieux, on avancera mieux sans eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse ?
Ben c'est pas vrai. En réalité, c'est pas vrai parce qu'ils servaient de cache-sexe à la France, à l'Allemagne, qui ne voulaient pas faire des choses. Ils disaient, ah, c'est les Britanniques. Mais en réalité, les Britanniques, c'est eux qui ont organisé le marché unique. C'est Margaret Thatcher qui a poussé pour avoir ce grand marché unique qui aujourd'hui fait le peu de croissance que nous avons et qui permet à l'économie européenne de compter encore par rapport à la Chine, aux États-Unis, etc. Donc non, c'est pas vrai. Le départ du Royaume-Uni, c'est une perte stratégique, diplomatique et autres. Et puis, vous savez, il y a toujours des turbulents au sein de l'Europe. Aujourd'hui, c'est les Polonais, les Français l'ont longtemps été, le sont encore. Donc, l'Europe, c'est d'essayer d'additionner toutes les qualités des uns en minimisant leurs défauts. Donc, ils s'en vont, c'est dommage. Et c'est dommage pour eux aussi.
Oui, mais alors là, un rapport britannique vient de sortir et qui dit que le gouvernement est incapable de dire avec certitude aux entreprises, aux commerçants, aux citoyens, ce qui va se passer dans tous les domaines après le Brexit. C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable. C'est pour des raisons politiques et idéologiques. C'est vraiment incroyable, vous avez raison. C'est dommageable. Et c'est une gestion à l'emporte-pièce. En réalité, la situation au Royaume-Uni est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Tant sur le plan économique, financier, vous verrez la livre valoir moins que l'euro en quelques jours.
Et social, vous avez un tiers un tiers des enfants au Royaume-Uni, au XXIe siècle, qui sont en insuffisance alimentaire. C'est absolument terrifiant.
Donc, si vous voulez...
Et l'UNICEF, qui du coup va, aux grandes dames d'ailleurs, de certains conservateurs, qui va distribuer des repas.
Ouais. Le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour le Royaume-Uni et aussi pour l'Europe.
Alors, cela dit, la pandémie, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le monde entier, donc pour l'Europe. Mais dans toute cette histoire, est-ce qu'on ne gardera pas l'idée que 2020 a été une année étonnamment européenne ? Réponse de Jean-Dominique Giuliani après une petite pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Jean-Dominique Giuliani, Marseillais, Corse, Français, Européen, citoyen du monde, vous allez nous faire un peu de pédagogie. Vous allez nous expliquer un peu, parce que quand même tout le monde ne le sait pas et on parle si rarement d'Europe dans les médias, comment ça fonctionne normalement un Conseil européen ? D'où ça vient ? Comment ça fonctionne ? Pas dans un eurotunnel de 5 minutes. Hein. Et comment c'est perturbé aujourd'hui ?
C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a trouvé que les institutions européennes n'étaient pas assez incarnées et ne tenaient pas assez compte des États. Et donc, il a proposé avec Helmut Schmidt à l'époque, je crois que c'était en 1976, d'instaurer un Conseil européen. C'est-à-dire que régulièrement, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent. Et c'est devenu, au fil des traités, une institution, en quelque sorte, la plus élevée des institutions communes de l'Union européenne. L'instance de recours, celle qui donne des impulsions. Malheureusement, elle s'est un peu transformée. Elle devient maintenant une instance quasi-législative, ce qui n'est pas tout à fait conforme au traité. Elle est saisie de tout, y compris des petits sujets, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord ailleurs.
D'accord. Ouais.
Et donc,
régulièrement, c'est ça ?
Oui, ils se réunissent une fois par trimestre.
À Bruxelles, avant ça tournait, maintenant c'est à Bruxelles.
Maintenant c'est à Bruxelles.
On dit chef d'État et de gouvernement juste à cause de la France, parce qu'en fait ce sont les chefs de gouvernement et le président français.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et puis, il y a d'autres exemples. Il y a le président roumain,
un ou deux présidents
viennent. Oui. Et en réalité, ils se réunissent tous les trimestres. Ils se sont dotés d'un président permanent et d'un secrétariat. Le président permanent, c'est Charles Michel, l'ancien premier ministre belge, qui essaie de les mettre d'accord, etc. Mais l'institution était complètement dévoyée. Elle est devenue, avec des collaborateurs énormes, d'accord, etc. Et en réalité, c'est pour ça qu'il est nécessaire que les chefs se voient. Hein. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se contaminer.
Alors comment ça change ?
Par visio, ça peut pas marcher.
Alors comment ça ? Pourquoi ça ? Alors expliquez ça. Pourquoi ça peut pas marcher par visio ?
Si l'Europe n'est que par visio ou par l'intermédiaire des diplomates, c'est le choc des intérêts nationaux à tout propos. C'est-à-dire pour les petits détails comme pour les grands.
D'accord.
Chaque fois, chacun a sa position qui a été arbitrée dans sa capitale et on peut pas revenir dessus.
D'accord.
Et donc on s'écharpe. Alors que si les chefs se voient, ce sont des responsables politiques, ils savent ce qu'ils peuvent dire à leur opinion, jusqu'où ils peuvent l'entraîner, et donc faire des accords, faire des deals,
et alors,
sur un point pour avancer sur un autre.
Et il y a une chose très importante, c'est qu'il y a deux moments dans les conseils européens, et si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle évidemment, il y a quand ils sont les 27 maintenant autour de la table, et puis il y a les apartés. Et dans les apartés, c'est à deux, c'est à trois, et c'est là qu'on règle beaucoup de choses, c'est ça ?
Absolument. Parce que Nicolas Sarkozy l'avait très bien dit. Il avait dit, on est 28 autour de la table, chacun prend 3 minutes de temps de parole, c'est insupportable, y compris le Maltais qui a le même temps de parole que la chancelière allemande, etc. Bon. Et donc chacun doit faire son numéro, et à la fin, on n'avance pas. Donc ça se passe dans ce qu'on appelle des bilatérales. Il y a des bureaux exprès pour, chaque délégation a ses bureaux, le président français a ses bureaux, et puis... il rend visite à Mme Merkel, elle vient le voir, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, si vous voulez, il faut réinventer ça aussi.
Mais, malgré la pandémie, malgré le fait que beaucoup de conseils aient eu lieu à distance, cette année, L'Europe a fait un saut en avant fédéral en adoptant un plan de relance de centaines de milliards. L'Europe ne s'est à aucun moment divisée dans la négociation avec les Britanniques qui essayaient de jouer les uns contre les autres. Et on a toujours parlé d'une seule voix. Bref, ça a été, malgré tout, une année très européenne, oui, de progrès de l'Europe.
Oui, parce qu'au mois de juillet, on ne l'a pas fait par visioconférence.
Oui.
On s'est vu, on a négocié exact. Pendant 4 jours et 4 nuits. Et donc là, on a pu avancer et faire des avancées considérables, vous avez raison. Est-ce qu'on va pouvoir s'endetter en commun? Il faudrait beaucoup d'explications, parce que la dette n'est pas un but en soi, mais ça veut dire qu'on se fait confiance, en réalité. Est-ce qu'on fait un grand plan de relance? Oui. Est-ce qu'on conforte la Banque Centrale Européenne, qui est l'instance la plus fédérale, on ne le dit jamais, et la plus protectrice des économies européennes? Sans la Banque Centrale Européenne, sans cet instrument fédéral, la France, aujourd'hui, sera en faillite.
J'insiste sur mon point médiapolitique. Si on n'avait pas pu le faire en présentiel, comme on dit, en physiquement les uns avec les autres, avec ces histoires d'aparté, on n'aurait pas pu le faire.
On n'y serait pas arrivé.
Donc, il fallait braver le Covid. Et que, voilà.
Ah non, oui, c'est, bah, écoutez, c'est très intéressant.
Il y avait un slogan, tu l'as voulu, tu l'as eu, vous voulez exercer des responsabilités, ça a des risques. Bon, oui, et les hommes politiques ont des risques, etc. Ça, c'est incontestable. Et notre président, je lui souhaite le meilleur, a pris ses risques. Et d'ailleurs, il a bien fait, puisqu'on a eu un accord franco-allemand qui lui doit beaucoup, et ensuite un accord de tous les Européens pour... montrer que l'Europe est au rendez-vous de la relance. J'ai fait les comptes, tout compris, Banque Centrale Européenne, les États membres, la Commission, on a mobilisé 4 000 milliards d'euros. Je dis mobiliser, c'est-à-dire dépenser. Donc on a 4 000 milliards d'euros prêts pour soutenir l'économie européenne. C'est le double des États-Unis.
Et le double des États-Unis, pendant ce temps-là aux États-Unis, Trump, qu'est-ce qu'il fait, Trump? Réponse dans 2 minutes, après la dernière pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Jean-Dominique Giuliani, qui préside le think tank Fondation Robert Schuman. Et là, je suis désolé, cher ami, mais nous avons quelqu'un d'un autre think tank, l'Institut Montaigne, la directrice de la communication, Alice Baudry, qui regarde les médias internationaux pour nous, vous savez, puisque vous écoutez régulièrement Mediapolis. Et voilà ce qu'elle nous a trouvé. Le comble, Trump se bat pour un travail qu'il ne fait même pas alors que le coronavirus fait rage. C'est ce que titrait CNN hier vendredi. Dans un article sur le web qui reprend les éléments de bilan des dernières semaines alors que Trump s'apprête à quitter la Maison Blanche dans les prochaines semaines. L'article dit que lorsqu'un jour l'histoire de la pandémie sera écrite, l'un des derniers grands mystères sera ce que le président Donald Trump faisait dans les derniers jours de sa présidence, alors que le nombre de décès de Covid-19 aux États-Unis continuait de dépasser les 3000 chaque jour et que le virus continuait de se propager sans contrôle. Mais Trump, lui, pendant ce temps-là, il s'est présenté en prétendant qu'il était le négociateur accompli quand il a voulu être élu président, le PDG qui pouvait faire bouger les choses d'un claquement de doigts. Et il restera dans l'histoire comme le président qui a aggravé, en méprisant les masques, les précautions de sécurité, comme nous l'avait rappelé Catherine Ney tout à l'heure, conçu par sa propre administration. Un homme incapable de surcroît d'empathie qui a choisi de rester dans sa bulle de la Maison Blanche à un moment où le leadership aurait eu de l'importance. Depuis des semaines désormais, Trump a passé la plupart de son temps à comploter sur les meilleures façons d'annuler les résultats de la victoire du président élu Joe Biden en novembre. Et il continue. Trump a également perdu son principal sujet de discussion sur la reprise de l'économie. Les demandes de chômage publiées jeudi ont montré que 8 850 000 Américains, 8 850 000, ont demandé des allocations de chômage pour la première fois la semaine dernière. Et Trump, pendant ce temps-là, publie un tweet ensoleillé avec cette nouvelle « Une bourse record », explique-t-il. Conclusion pour notre populiste le plus en vogue, un bilan catastrophique sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. Et ben, voilà qui est envoyé. C'est le contre-exemple absolu, finalement.
Oui, et pour l'Europe, c'est très important, parce que ça montre que la voie populiste, démagogique à l'extrême, qu'elle soit de gauche ou de droite, est sans issue, et en tout cas négative pour les peuples, les États et les pays. Et donc, c'est bien ce à quoi Boris Johnson est aujourd'hui confronté, puisqu'il essaie de sortir de cette voie dans laquelle il suivait Trump. Mais il y a le Premier ministre slovène, il y a, on voit bien que le régime actuel en Pologne ou en Hongrie ils sont tentés d'avoir le même discours. D'ailleurs, ils ont soutenu Trump. Et donc, je pense que la leçon, elle est amère. Un homme comme Boris Johnson, qui est, je crois, beaucoup mieux éduqué que les autres, et il a compris. Et donc, il essaie de sortir par la petite porte de cette voie populiste.
Il est tellement instable.
Mais il est instable, et d'ailleurs...
Vous parlez de Trump ou de Johnson ?
De Johnson.
On se pose encore la question de savoir ce qu'il veut, en réalité. Ouais. On ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut un no deal, un Brexit ? On sait rien, un accord. Et finalement, je ne crois pas qu'il le sache lui-même. C'est ça, oui, la caractéristique d'un populiste. Voilà.
Alors, on va...
En plus, quand il parle, il a toujours l'air de sortir de son lit. Il n'est jamais coiffé. Ça me choque.
Mais moi, j'ai vu qu'il se décoiffait exprès avant ses interviews.
Non, donc, sans déconner.
Parce que c'est un style qu'il veut se donner. Ah, ça, bon, pour les médias, vous voyez.
Il se décoiffe exprès.
Oui, oui. Je l'ai vu de mes yeux, donc je peux vous le dire... Avec ses mains, il se décoiffe parce qu'il a...
Ça, c'est le scoop rigolo de la matinée. Hein. Giuliani a vu ce que faisait Johnson, avec cette façon d'être décoiffé qui déplaît à Catherine. Il fait exprès de se décoiffer. Incroyable. Alors, juste avant d'écouter la chanson, c'est une chanson Massilia Sound System à Marseille de 2014. Donc, retour dans le sud... nous avons eu un coup de théâtre mardi avec la démission surprise de Michel Rubirola au terme de 5 mois de mandat. Vous connaissez bien Marseille quand même ou vous avez tout oublié depuis votre naissance ?
Oui, je connais bien Marseille, mais je connais aussi beaucoup les écolos européens. Et là aussi, nous
il
avons
va
une
spécialité contre les écolos. Écoutez,
non, nous avons une spécialité française, c'est que ils ont à faire la preuve qu'ils savent gérer et gouverner. Pour l'instant, les maires écolos ont rencontré quelques difficultés. On le voit, et à Marseille, elle a estimé ne pas être en mesure de pouvoir gouverner. C'est quand même problématique pour la démocratie, parce qu'elle a été élue, et on voit que derrière, c'est l'opposant à la droite locale, donc un socialiste, qui était en fait l'architecte et la colonne vertébrale de tout cela. Ça pose quand même un problème, là, pour le coup, de transparence politique.
Tu as voulu voir Vesoul et tu as vu Vierzon. Voilà. Ah,
ça aurait été une autre chanson possible. Tu as voulu voir Vesoul et on a vu Vierzon. Mais non, ce sera à Marseille, maintenant, grâce à notre cher réalisateur Arblade.
La baie de Rio, celle de Shanghai, le port de Marseille. T'ouvres la radio, c'est toujours le why, les mêmes nouvelles. La crise est partout, la faute aux canailles, à ceux qui ont l'oseille. Les mêmes échos, les mêmes tracas te montent aux oreilles. À Marseille, des quartiers nord au Prado, dans les ruelles. Les couleurs du monde entier, la demoiselle. Les yeux rivés sur le pharo, se sent plus belle.
Rendez-vous manqué, en occasion ratée, de copier, en coller la ville et repenser. On se sent désœuvré, en traînant sur les quais, on se sent dépossédé de notre identité. Ils voudraient tout changer, mais avec quel projet ? On nous a rien demandé, on nous a imposé. Beaucoup sont résignés, beaucoup sont dégoûtés, ne veulent plus s'impliquer, d'autres s'en sont carrés. Il faut se relever, oui c'est exagéré, ton esprit de guerrier, il faut le réveiller. Mais ils sont où les Marseillais ?
À Marseille, les quartiers nord au Prado, dans les ruelles. Les couleurs du monde entier, la demoiselle. Les yeux rivés sur le pharo, se sent plus belle. Quand elle est née, tu sais.
Tu vois l'enseigne politique, c'est de nous faire vivre à genoux. Les puissants qui nous font la nique ne veulent rien changer du tout. Pas besoin d'avoir une loupe pour deviner leurs intentions. À nous de nous servir la soupe sans demander la permission.
À Marseille, les quartiers nord au Prado, dans les ruelles. La demoiselle, les yeux rivés sur le pharo, se sent plus belle. Quand elle est métissée,
sors de leur masse, il faut que tu te dépasses. Oublie ce bain qui est plein de piranhas. Quand l'Amazon est débordée, n'en peut plus. Chez nous, on est au bord de la crue. Un ballon pour un homme dans la ville, comme un vélodrome.
fais tes devoirs et n'oublie pas, tu as des droits. T'es pas un numéro, tu dois faire ton choix. Gentil, méchant, bandit ou bien mendiant. Même combat au royaume de l'argent. Garder son rang, c'est comme garder la pose. Moi j'en ai ma dose.
À Marseille, les quartiers nord au Prado, dans les ruelles.
Cette extravagante chanson écrite certains versets par le Rassemblement National et d'autres par la France Insoumise avec un petit coup de gilet jaune 4 ans avant au passage, ce patchwork a été choisi par le plus éclectique des réalisateurs, Jean-Luc Arblat, que je remercie. L'émission a été préparée comme d'habitude par Capucine et fort bien préparée, Patouillet. Je remercie bien entendu le président du think tank Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani. Et vous, comme toujours, chère Catherine,
merci,
on peut vous écouter
tous
les deux. Écoutez l'émission en podcast, la faire écouter sur europe1.fr. Et en attendant, nous passons le relais à l'ami Laurent Mariotte, que je salue.
Bonjour Laurent.
Bonjour Catherine et bonjour Olivier. Alors ce samedi, vous pensez bien, on prépare le menu de Noël pour le réveillon avec Yves Candebord et Olivier Pouls. Comment passer Noël, tiens, avec ses invités et pas uniquement au fourneau? Eh bien, on va répondre à cette question et le chef Jean-François Piège sera notre invité. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.